تمام، وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيكم. الحمد لله، جيد جيد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، donc on se retrouve pour un nouveau cours sur notre matière, la jurisprudence dans les adorations, al-fiqh. Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours, on fera un récapitulatif depuis le début. Hein. Depuis le début de l'ouvrage hein, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Tamam. Aujourd'hui, on va continuer là où on va reprendre où on s'était arrêté dans le cours précédent. Et dans le cours prochain, on fera un récapitulatif pour rafraîchir les mémoires. Et s'il y aura des questions, et s'il y aura... Inch'Allah ta'ala, des éclaircissements, etc. Peut-être des fawaïd en plus. Hein. Histoire de bien comprendre, de bien maîtriser tout ça. Barakallahu fiikum. Donc, concernant les questions, Inch'Allah ta'ala, on prendra 10 minutes, voire plus, avant la fin du cours. Inch'Allah ta'ala, pour les questions, barakallahu fiikum. Retenez vos questions. Et Inch'Allah, on les traitera, si on en a la capacité, en fin de cours, Inch'Allah Ta'ala. Avant de commencer ce cours de fiqh, on va prendre 2-3 minutes, vraiment rapidement, pour un conseil et une recommandation. Normalement, on prend énormément de temps pour cela, plus de temps, mais c'est prévu, Inch'Allah Ta'ala, je suis en train de préparer plutôt de traduire et de préparer, na'am, j'ajoute des fawaïd, etc. Un rappel sur, également encore, la fin des temps, les troubles en fait. C'est pas la fin des temps, c'est plus les troubles. Un rappel sur les troubles. Donc on aura le temps de traiter ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. Mais ici, aujourd'hui, quelques minutes. Notre temps est précieux, surtout concernant le fiqh. Donc quelques minutes pour un petit conseil, une recommandation. Car comme vous le savez, الذكر تنفع المؤمنين. Le rappel profite aux croyants. Nous constatons aujourd'hui que nous évoluons dans un contexte très alarmant. Nous évoluons aujourd'hui de plus en plus dans un contexte très alarmant. Le croyant doit prendre en considération et il doit réagir. Le musulman tout court doit tirer la sonnette d'alarme et vraiment réagir concernant tous les événements universels qui se produisent à notre époque. Cela ne doit pas passer dans l'oreille d'un sourd. Aujourd'hui, il y a des signes alarmants pour les doués d'intelligence ou pour ceux qui suivent les doués d'intelligence et de clairvoyance. Il y a des signes alarmants. On doit, par rapport à toutes les calamités, les complots qui sont flagrants, l'organisation du stratagème des kuffars, les calamités qui sont la punition d'Allah Ta'ala, ce qui signifie que la communauté a un problème. C'est-à-dire qu'elle ne se réfugie pas comme Allah Ta'ala l'a demandé dans le Kitab wa Sunna. Donc, Wallahu a'lam, déjà les compagnons à leur époque, ils avaient peur. Les compagnons à leur époque, ils avaient peur que ils étaient déjà à la fin du monde. Ils avaient peur, déjà à leur époque. Ils avaient peur que ce soit la fin du monde. Alors nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser? Comment on doit réagir? La recommandation que, et le conseil que nous vous donnons, c'est qu'il faut faire un grand, grand, grand examen de conscience pour chacun de nous, se remettre en question, essayer de s'améliorer, de se rapprocher le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Essayer de gagner l'amour d'Allah Ta'ala par n'importe quel moyen. Légiférer, bien entendu. Il faut vraiment se remettre en question et essayer de se rapprocher d'Allah, de faire plus d'adoration, de purifier son cœur, de chercher à être sincère, de faire des invocations qui sont, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et du'a silah al-mu'min, les invocations sont le silah, l'arme du musulman. Il est vraiment temps, il est vraiment temps, mieux vaut tard que jamais, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Vous avez saisi cette petite parabole, après l'heure, c'est plus l'heure. Troisième fois, après l'heure, c'est plus l'heure, c'est trop tard. Laysatit tawbati lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qalu inni tubtu al-an. Il n'y a pas de repentir pour ceux, traduction rapprochée, il n'y a pas de repentir pour ceux qui font laysatit tawba lilladhina Yarmalouna sayyi'at, ceux qui font des mauvaises actions, des péchés, des mauvaises choses, il n'y a pas de repentir pour eux, pour ceux qui attendent jusqu'au moment de la mort et disent, oh, je me repentis. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc c'est maintenant, faisons un examen de conscience en se disant pourquoi ce ne serait pas moi, cette personne qui, par son invocation, peut sauver toute la communauté. Pour moi, pourquoi ça ne serait pas moi, cette personne qui, par un retour sincère, Allah Ta'ala l'a fait rentrer au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On a dit quelques minutes, mais par la grâce d'Allah, on aurait pu faire, comme vous le savez, hein, 1 heure, 2 heures. Mais ça viendra, Inch'Allah Ta'ala. Même ces quelques minutes, normalement, ça doit toucher les cœurs. Wallah, il faut faire un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est le moment. Il y a des signes qui ne sont pas trompeurs, d'autres qui sont trompeurs. Mais Allah ta'ala nous dit dans le Coran, n'y a-t-il pas des signes pour les gens qui réfléchissent? Prenons cette parole et appliquons-la sur notre waqi', notre réalité. Celui qui réfléchit verra que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Wallahu a'lam. Tout peut arriver. Dans de telles conditions, tout peut arriver. Attention à ne pas être pris dans la dunya, à ce que les esprits, le cœur, ne soit pas distrait par quoi que ce soit. C'est le moment du retour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment. Wallahi, c'est le moment de revenir, de s'améliorer, rajouter des adorations dans l'adoration, faites revivre des sunnas, des sunnens, faites le bien autour de vous. Le bon comportement, le tawhid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamam. Alors, concernant notre cours, alors comme vous le savez, les cours, c'est bien. Les cours, c'est bien, mashallah. On remercie Allah Ta'ala qu'Allah nous ait donné la capacité de pouvoir donner des cours, mais on remercie également Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous avoir donné la capacité d'exhorter. Vous savez qu'il y a des gens qui font des études pour être capables d'exhorter les autres. Kulliyat al-da'wa. À l'université en Arabie Saoudite, il y a un centre, une partie d'une annexe de l'université où s'appelle Kouliyat Darwa. Ils apprennent à faire la Darwa. Ils apprennent tout, comment faire la Darwa, comment faire les khutbas, comment faire les exhortations, comment. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ce qu'il veut à qui il veut. Nahmaduhu wa nashkuru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après, concernant l'impact sur les autres, les fruits que cela donne, tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On sait qu'il y a des prophètes qui viendront seuls le jour de la résurrection. Est-ce que cela signifie qu'ils n'auront pas transmis le message? Non. Ils auront transmis. Taïb. On va reprendre là où on s'est arrêté dans le fiqh. Avec notre savant Al-Hajjawi, et on va ensuite donner l'explication de Cheikh Al-Fawzan. On va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan pour que vous soyez en totale cohérence, connivence, hein, comme vous voulez. avec le manhaj, la voie de l'imam Ahmed, la position, l'école, al-madhhab al-hanbalite. Tamam? Et ensuite, on expliquera, on donnera un peu plus de détails avec Cheikh Al-Uthaymin. Donc, comme on vous a dit, pour ne pas vous déstabiliser, Cheikh Al-Uthaymin, c'est un résumé. On ne va pas dire tout ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin, sinon ça serait trop. Sinon, ce serait trop. Tamam. Alors, une faïda au passage, je ne me souviens plus si j'en ai parlé dans le cours précédent, mais je me suis souvenu que c'était important. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cette faïda, mais c'est bien de le savoir, parce que c'est en rapport avec le cours précédent. Naam. Il faut savoir que concernant les ablutions, al-wudu, comme on dit al-wudu, tamam, al-wudu. Concernant les ablutions, l'obligatoire pour le musulman, ce qui est obligatoire au niveau du nombre, combien de fois on doit faire les ablutions. L'obligatoire, c'est une fois. Deux fois, c'est sunna, trois fois, c'est sunna. Et bien sûr, trois fois, c'est le préférable, c'est la sunna. Mais si tu veux être dans ton obligatoire, tu dois faire l'odo une fois. Alors, il y a des gens qui croient que la sunna, c'est trois fois. L'obligatoire, c'est trois fois l'odo. L'obligatoire, c'est une fois l'odo. Et trois fois, bien sûr, c'est mieux, c'est plus complet, c'est la sunna, etc. Tamam? Ça, c'est la première faïda, parce que dans le cours précédent, on a parlé de faire l'odo avec l'eau qui a déjà été utilisée, tout ça. On a parlé de. Et je me suis souvenu que dans l'explication, Cheikh Al-Uthaymeen, il parle de combien de fois on fait l'odo, etc. Donc aujourd'hui, on vous donne la faïda. Également, il y a une autre mas'ala. Il y a une autre mas'ala concernant les ablutions. Les ablutions, la sunna également, si une personne, elle a gardé les ablutions d'une prière à une autre, vous savez bien que c'est permis. Si par exemple, une personne, elle a fait ses ablutions salat al-dhuhr. Elle les a gardées jusqu'à salat al-asr. Elle peut prier salat al-asr avec les ablutions du dhuhr. Vous le savez tous, inshallah. Mais c'est la sunna de refaire les ablutions. Même si tu as déjà les ablutions, c'est la sunna de refaire les ablutions. C'est une faïda pour vous, ça. Tu as déjà l'odo précédent que tu as gardé, donc tu peux faire ta salat, mais tu vas refaire l'odo. Ça, c'est la sunna. Tamam? Wallahu a'lam, ça, donc, ce sont des fawaïd, hein, au passage. Alors, notez, hein, si vous avez des questions pour la fin, inshallah ta'ala. Si on peut y répondre, on y répondra. Et puis, si on n'en a pas le temps, ne vous inquiétez pas, on va les mettre questions auxquelles on doit, dans les questions auxquelles on doit répondre, inshallah ta'ala. Tayyib. Ali al-Hajjawi nous dit, si elle atteint al-qullatayn, ce qui représente environ 500 qui est en excès si des impuretés, sauf l'urine ou l'excrément humain, se mélangent avec cette eau en grande quantité et ne l'affectent pas, et si l'urine ou les selles se mélangent avec elle et qu'il est difficile de les goûter comme de l'eau, Massani, qui coule sur la route de la Mecque. L'eau est pure. Vous inquiétez pas, au début, on se dit, oh, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Quand on a la parole de l'auteur, mais on sait qu'à la suite, si on a l'explication d'un savant, justement, c'est pour nous éclaircir et bien comprendre la parole de l'auteur. Les ulamas sont là pour ça, entre autres. Hein. T'as même? Alors, tout d'abord, qullatayn. En arabe, c'est un mot là qui est sous la forme du duel en arabe. Qullatayn, ça veut dire deux. Deux qullas. Qu'est-ce qu'une qulla? Les savants disent, en fait, c'est une jarre. C'est une jarre. Une grande jarre. Donc, quel est le but ici de mentionner qullatayn, c'est-à-dire au duel deux jarres? Quel est le but ici de l'auteur? C'est parce que qullatayn, ce sont deux jarres qui peuvent contenir un certain niveau d'eau qui sera considéré comme une grande quantité d'eau à partir de laquelle on établit un jugement, c'est-à-dire que dès que cette quantité, on arrive à cette quantité de qullatayn, de deux grandes jarres, alors, après il y a des divergences, hein, on va parler de ça, alors, même s'il y a des impuretés qui tombent dedans, l'eau, cette quantité de ces deux grandes jarres, elle l'emporte. C'est la pureté qui l'emporte. Vu la quantité conséquente d'eau. Alors la question qui se pose, ça équivaut à peu près à quoi, pour l'atteindre? Wallahu a'lam, c'est de l'approximative, c'est ce qui est mentionné par Cheikh Al-Uthaymeen ou Cheikh Ibn Baz. Ça équivaut à peu près à 200 kilos, 160 litres de chez nous à peu près. Wallahu a'lam. Donc, les savants nous disent, taqriban wa laysa ala sabil at-tahdid. Donc, c'est approximativement, c'est pas dans le sens précisément, il faut. Non, ça peut être un tout petit peu moins, un tout petit peu plus. Voilà. Donc ça, dans un premier temps, c'était pour vous expliquer la signification de ces deux jarres qu'on nomme en arabe qullatayn, c'est-à-dire la grande, à partir de quelle mesure on considère que l'eau a atteint un grand niveau qui fait que une grande quantité, pardon, qui fait que on dira que si la najasa tombe dedans, l'impureté tombe dedans, et ben l'eau, elle reste pure. Wallahu a'lam. Tamam. Alors, deux petites secondes. Allahumma sta'an. Fait une petite erreur de manipulation et le maître de Cheikh à explication, il est parti. Donc je le récupère. Alors voilà, qullatayn, ça consiste à ce qu'on vient de vous expliquer. On a essayé d'expliquer le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il va nous expliquer là le madhhab al-hanbalite. Ce qu'on étudie, ce qui est notre base à nous ici. Après, on va donner l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen Lui, ce qu'il voit qui est le plus authentique, par rapport à quoi et pourquoi, etc. D'accord? Si elle atteint qullatayn, alors on parle de quoi? Si elle atteint qullatayn, elle, c'est qui? On parle de l'eau. Si l'eau atteint deux grandes jarres d'à peu près 200 kilos. Hein. Si elle atteint deux grandes jarres, ne l'affecte pas, c'est-à-dire que les impuretés ne l'infecteront pas. Si l'eau est kathir, l'eau ça veut dire elle est beaucoup, c'est-à-dire elle est considérée en grande quantité. Lorsqu'il y a deux jarres, comme on vient de l'expliquer, juridiquement, là on considère que c'est de l'eau en grande quantité. Moins des deux jarres, on considère que c'est petite quantité. C'est-à-dire, elle excède deux qurah et qu'une impureté tombe dedans. Si la couleur, le goût et l'odeur restent inchangés, alors elle reste pure. Ceci parce que l'impureté n'a eu aucun effet sur l'eau, car l'impureté a été dépassée par le volume d'eau pure et a été neutralisée. Donc là, pour le moment, on est toujours sur la base. On est toujours sur la base que pour dire que l'eau, elle change de statut. Alors changer de statut, c'est ou bien elle va être impure, ou bien elle va être. On va voir à la suite que elle impure dans le sens où c'est des impuretés qui tombent dans l'eau, elle va devenir impure. Ou bien l'eau, elle peut changer également de statut. Là, c'est pas les impuretés, c'est des choses pures qui vont tomber dedans. On va le voir après, hein. Ce sont des choses pures qui vont tomber dedans, mais elles vont changer sa couleur, tout ça, son odeur, etc. Donc là, on dira qu'elle sera, elle n'aura plus le statut de l'eau, en fait. Elle n'aura plus le statut de l'eau. On va le voir à la suite, hein. Taïb. Pour l'instant, on n'est pas dans ce contexte. Hein. On n'est pas du tout. Pour l'instant, on est dans le contexte de, on a une quantité, grande quantité d'eau, et on a des impuretés qui vont tomber dedans. Cette grande quantité, elle est fixée comme qullatayn, deux grandes jarres, à peu près hein, 160 litres, 200 kilo, wallahu a'lam. Après, ça va dépendre d'un savant à un autre, etc. S'il y a des impuretés qui tombent dedans, alors on nous dit, si ça ne change pas l'odeur, le goût, la couleur, alors c'est l'eau qui l'emporte. C'est l'eau qui l'emporte. Tamam? Il y a une exception. L'imam, l'imam Al-Hajawi, il nous mentionne une exception. Il y a une exception. Et ça, on va le voir tout de suite, mais on va voir un peu plus de détails à la suite, Inch'Allah ta'ala. Pour l'instant, on reste dans le madhhab Al-Hanbalite, car c'est la base que nous avons choisie. L'exception est si l'impureté était l'urine ou les excréments humains. Les deux affectent la pureté de l'eau, même si elle est en grande quantité. Même si elle est en grande quantité. Donc, lorsqu'on a une grande quantité d'eau et on y introduit, quelle que soit la manière, de l'urine ou excréments humains, alors cela affecte la pureté de l'eau. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de se soulager dans l'eau calme et par conséquent d'utiliser cette eau pour la purification. Alors, Je vais vous expliquer un peu cela. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed Rahimahullah, du madhhab de l'école de l'imam Ahmed, celle qu'on étudie, nous. Alors, lorsqu'on dit il est interdit aux musulmans de se soulager dans l'eau calme, et d'utiliser, par conséquent, d'utiliser cette eau pour la purification. Alors, je pense que certains ont dû se poser la question, qu'est-ce que ça signifie l'eau calme? Allahu a'lam, je ne me considère pas mieux que le traducteur ou quoi que ce soit, mais moi j'aurais dit plutôt l'eau stagnante. On peut dire l'eau calme, mais ça peut prêter à l'eau stagnante. C'est plus compréhensible. Qu'est-ce que l'eau stagnante qu'ils ont appelée ici l'eau calme? L'eau stagnante, c'est l'eau qui ne bouge pas. Elle n'a pas, comment dirais-je, comme un ruisseau, un genre de rivière, un étang plutôt. On dira un étang qui ne va pas se jeter dans quoi que ce soit, qui s'est fermé, c'est stagnant. L'eau ne vient pas se changer, se purifier, changer. Comme l'eau de la mer, par exemple, on ne dit pas que c'est de l'eau stagnante. L'eau de la mer. C'est pour ça qu'il est permis d'uriner dans l'eau de la mer. Mais attention, comme les étangs ou d'autres choses, par exemple un puits, c'est de l'eau stagnante. Wallahu a'lam. Donc, faut pas uriner dans un puits. Faut pas prendre un puits pour des toilettes. Wallahu a'lam. On essayera de chercher une fatwa de savant sur ça. Inch'Allah ta'ala. L'eau calme et par considérant d'utiliser cette eau pour la purification. Parce que l'eau stagnante qui est utilisée pour. Où on fait les besoins humains, tout ça et tout. On ne pourra pas l'utiliser pour se purifier. Wallahu a'lam. On ne pourra pas l'utiliser pour se purifier. Et si l'urine ou les selles se mélangent avec elle et qu'il est difficile de les goûter, si l'eau contaminée ne peut pas être évacuée des déchets, la pureté de l'eau est maintenue en raison de la difficulté de drainer les contaminants. Là, wallahu a'lam, on parle pour les. Non, toujours pour l'eau stagnante. Comme de l'eau. Alors, on nous donne un exemple. Là, c'est bien, on nous donne un exemple. On nous donne un exemple. Comme de l'eau al-Masani. Al-Masani est une fosse qui est creusée pour y retenir du liquide dans le but d'étancher la soif des pèlerins qui viennent pour le Hajj et le Umara. Vous savez, on creuse une sorte de mini-puits, hein, entre parenthèses, une petite fosse, on met de l'eau pour que les gens puissent utiliser. Ça, on va dire que c'est de l'eau stagnante. Là, on va dire que c'est de l'eau stagnante. La fosse est bordée d'argile et de pierre. Si une impureté devait tomber dedans, l'eau n'est pas affectée et reste pure. C'est parce que c'est semblable aux abreuvoirs trouvés dans la nature. Les animaux peuvent se soulager dans l'eau et pourtant notre prophète, as-salam, ne nous a pas dit de ne pas en boire, interrogé sur le trou d'eau dans lequel les animaux boivent. Il répondit, car c'est la part de ce que son estomac peut contenir et pour nous et le reste. Également dit, si l'eau atteint une quantité de 2 qulla, elle n'est pas contaminée. Alors par rapport à quoi on dira que cette eau, elle n'est pas contaminable, contaminée? C'est dans le sens où elle dépasse la quantité maximum. Elle dépasse la quantité maximum. Taïb, elle dépasse la quantité maximum. Parce que vous vous doutez bien que la fosse qui est creusée, c'est pas, il n'y a pas 1 litre, 2 litres d'eau dedans. Forcément, ça dépasse les qollatens. On dit les pèlerins viennent s'abreuver, viennent se laver, viennent. Vous imaginez le gros trou qu'ils ont dû. C'est pas un petit. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'eau qui l'emporte. C'est l'eau qui l'emporte. Alors, avant de passer au sujet suivant concernant la parole de l'auteur. On va, Inch'Allah ta'ala, voir les fawaïd que nous apporte Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. J'avais noté l'avis d'Abu Hanifa que l'eau utilisée est impure est faux et contredit les salafs, et Cheikh Al-Islam a répliqué. Comme quoi, c'est un avis loin de la sunna. Naham. Donc, il y a des divergences hein, sur ce qu'on vient de mentionner. Il y a l'école de Abu Hanifa hein, qui a une autre position. Et moi, j'avais noté l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui disait que l'avis de Abu Hanifa, il n'est pas à prendre en compte. Il n'est pas à prendre en compte. Nous, on n'est pas encore là. Hein. On n'est pas encore là. À tenir compte des quatre madhahib, des quatre écoles. Nous, pour l'instant, on est dans une école et on a un grand savant, un grand juriste dans le fiqh, un mujtahid, un de nos grands savants. Et comme il nous apporte des fawaïd très importantes, comme on avait déjà expliqué, alors on prend son avis, on mentionne son avis. Tamam? Alors, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit. Donc tout ça, on l'a dit, hein. Qullatayn, c'est le duel de Qulla. Qulla, c'est une jarre. Hein. C'était quelque chose de connu chez les Arabes. Voilà. Wahu al-Kathir, c'est-à-dire, c'est considéré comme la grande quantité chez les Arabes. Hein. Donc, Qullatayn. Nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, c'est-à-dire ces deux jarres dont on a déjà mentionné la quantité approximative. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, c'est qullatayn, c'est le terme qui est employé chez les juristes pour désigner, dans la terminologie, hein, c'est un terme, qullatayn, qui est employé dans la terminologie chez les juristes pour mentionner Afwan, la grande quantité. D'accord? Pourquoi j'insiste sur ça? On essaye de bien expliquer, de bien faire assimiler, parce que dans les cours de fiqh, dans le chapitre de la purification, vous allez beaucoup entendre parler des qullatayn. Donc, il faut que ça reste ancré chez vous. Si vous ne savez pas c'est quoi qullatayn, c'est un fondement dans le fiqh, plutôt dans le chapitre de la purification. Qu'on doit connaître. Sinon, il nous manquera un fondement, il nous manquera une base. Surtout dans le madhhab hanbalite. Surtout dans le madhhab, dans l'école hanbalite. Taïb? Donc voilà, qullatayn, hein? On se demande pourquoi deux jarres, pourquoi c'est une terminologie qui est utilisée chez les fuqaha, les juristes, pour désigner la grande quantité d'eau. D'accord? Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, nous dit ce qui est inférieur à ces deux jarres, qullatayn, ce qui est inférieur à ces deux jarres n'est pas considéré comme grande quantité d'eau. C'est considéré comme moindre quantité d'eau. Inférieur à deux jarres qullatayn. Alors attention, on a déjà expliqué, c'est pas deux petites jarres comme on a chez nous, Vous savez, pour aller au hammam, il y a quoi? Il y a 4 litres dedans, entre 2 et 5 litres dedans. Même pas 5 litres, je dirais. C'est pas des jarres comme ça. Hein. C'est 200 kilos, 160 litres, 500 litres irakiens, etc. Naham, rahimahullah, ma balagha qullatayn wa yasir maduna qullatayn. Wa huma 500 litres iraqi, taqriban. 100 لتر عراقي يزن قريبا ماء تقريبا وعلى هذا تكون 5 قراب تقريبا دكا فخلطته نجسة. Donc on a déjà expliqué, hein. On parle ici, l'auteur nous dit, la grande quantité d'eau, quand elle est mélangée à l'impureté, qu'est-ce que ça donne? Alors lui, regardez, Cheikh Al-Uthaymin, il nous mentionne, dans son livre, il nous mentionne 3 positions, mais nous, on va en mentionner que 2. On va mentionner les 2 qui nous intéressent. La première, c'est le madhhab de l'école hanbalite chez les anciens. On l'a déjà mentionné avec Cheikh Al-Fawzan. C'est que si l'impureté vient se mélanger avec une quantité inférieure à qullatayn, aux 2 jarres, alors elle viendra. L'eau sera impure. L'eau sera impure. Si des impuretés se mélangent dans une quantité de moins de qullatayn, les 2 jarres là, alors elle sera impure. Qu'il y ait un changement quand c'est la quantité moindre, hein. On n'attend pas que ça change la couleur, que ça change l'odeur, que ça change. Étant donné que cette quantité elle est moindre, que ça change le statut de l'eau ou pas, ça y est, on dira que cette eau, elle est impure. Taïb. Puis, ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il va nous donner son avis, sa position. La position de Cheikh Al-Uthaymin, qui est celle de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Attention, c'est la position de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah et un groupe parmi les gens de science. Cheikh Al-Uthaymin, il a choisi l'avis de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres savants en disant que l'eau, quelle que soit sa quantité inférieure, alors que ce soit qullatayn ou inférieure à qullatayn, on dira qu'elle ne change de statut que si elle change dans l'absolu, c'est-à-dire odeur, couleur et goût. Je vais éclaircir, inshallah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin a pris l'avis d'une partie des savants et Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah que, quelle que soit la quantité d'eau, ils ne font pas la distinction entre qullatayn et inférieur à qullatayn. Ils disent, pour que l'eau elle change, elle devient impure. Il faut que la couleur change, le goût change, l'odeur change dans l'absolu. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est ça qui est authentique par rapport aux récits qui ont été rapportés. Naham. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymine, il argumente, mais nous, on va passer ça. Taïeb. Ensuite, l'auteur nous a parlé de ce que Cheikh Al-Fawzan nous a mentionné comme istithna, c'est-à-dire exception. L'urine et les excréments humains. Alors, on a vu que dans le madhhab hanbalite, on a vu que dans le madhhab hanbalite avec l'imam Ahmed, dans le madhhab, on a vu que il faisait la distinction entre les impuretés classiques et les impuretés urine humaine, urine excrément humain. Mais Cheikh Al-Uthaymine, il nous dit que les contemporains, même dans le madhhab de les Hanbalites, même dans chez les contemporains, eh ben, ils ne font pas la distinction entre les impuretés classiques et l'urine et les excréments humains. Donc ça, c'est une chose à savoir, c'est que à la base, dans le madhhab hanbalite, on différencie entre les impuretés, en règle générale, et l'urine et les excréments humains qui, eux, ils viennent carrément, s'ils se mélangent à l'eau, eh ben ça rend l'eau impure. Mais il y a d'autres hanbalites parmi les contemporains qui, eux, disent qu'il n'y a pas de différence entre toutes les najasat, les impuretés. Donc, c'est bien de connaître la nuance. C'est de la faïda pour vous. Hein. C'est juste pour connaître que, voilà, il y en a qui, à l'ancienne, si vous préférez, on différencie entre les impuretés et l'impureté que sont l'urine humaine et les excréments humain. Donc ce sujet-là, inshallah ta'ala, on l'a terminé. On passe à l'autre parole du savant. Où est-ce que comme il nous reste, combien nous reste-t-il? Il nous reste 10 minutes. On va prendre les questions. Hein. Tant pis. Le sujet suivant, c'est faire l'eau d'eau avec le reste de l'eau de la femme et vice-versa. C'est le prochain sujet, mais on le verra dans le cours prochain, inshallah ta'ala. Donc, si vous avez des questions, et si on en a vraiment la capacité, on répond immédiatement. Si on n'en a pas la capacité, on fera la recherche, inshallah. Barakallahu fikum pour le cours, mu'allim, wa fikum barakallah. J'ai deux questions, inshallah. Comment réunir le fait que uriner dans la mer soit permis, mais que faire l'eau d'eau avec l'eau de mer soit permise. L'eau est stagnante dans les toilettes, ce qui est au fond. Alors je commence par la première. Hein. Comment réunir le fait que uriner dans la mer soit permis, mais que faire l'eau d'eau avec l'eau de mer soit permise aussi? Eh bien, c'est comme parce que l'eau de la mer, elle n'est pas stagnante. Donc, l'eau de mer l'emporte sur la najasa. L'eau de mer, elle l'emporte sur la najasa. Elle est tellement conséquente, l'eau de mer, vous le savez, hein, l'eau de mer, elle est tellement conséquente au niveau de la quantité, etc. Wallahu alam, hein, que elle déjà n'est pas considérée comme de l'eau stagnante. Donc, c'est la quantité qui l'emporte. Wallahu a'lam. L'eau est stagnante dans les toilettes, ce qui est au fond Par contre, il n'y a pas de fin. La question, la deuxième, l'eau est stagnante dans les toilettes. Dans les toilettes, Allahu a'lam. Allahu a'lam, si on peut dire que l'eau est stagnante dans les toilettes, ce qui est au fond, ça je ne sais pas. Allahu a'lam. On vérifiera, inshallah ta'ala, pour l'eau des toilettes. Allahu a'lam. Tamam. Je regarde du côté des frères. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Cheikh Ziyad. Cheikh Hakim, oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Cheikh Nordine. J'avais pas vu, désolé. Hayakallah, Cheikh Nordine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le cours, j'ai rarement entendu un cours dans le chapitre des eaux aussi détaillé. Barakallahu fik, Cheikh Papa. Jazakallahu khair. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun wa ghfir lima la ya'lamun wa ja'alni khayran mimma yadhunnun. Vous inquiétez pas, rien de péjoratif, hein, c'est Cheikh Al-Albani qui faisait cette invocation. On essaye vraiment de se mettre à niveau. Alhamdulillah, tant mieux si les frères et les étudiants et les étudiantes comprennent bien. Wallah, c'est un grand plaisir. J'avais une question, j'ai entendu dans un cours d'un prédicateur francophone qu'on peut prononcer le nom d'Allah dans les toilettes si on a tiré la chasse d'eau. C'est vrai? Alors, concernant cette mas'ala, cette question, Cheikh Abu Nusayba, Cheikh Papa, bikulli saraha, ce que moi je connais en toute saraha, c'est-à-dire clairement quoi, ce que moi je connais, ce que nous connaissons, c'est que les savants disent, on ne prononce pas le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la base. Hein. Dans les toilettes. Ça, c'est la base. On ne prononce pas le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les toilettes. Maintenant, wallahu a'lam, il me semble que j'ai vu des paroles qui disent, on ne prononce pas à haute voix. Et encore, ça reste à vérifier, c'est juste un fragment de souvenir que j'ai. Mais de dire tirer la chasse, concernant la méthodologie, la sagesse et la clairvoyance des gens de la Sunna, je ne me permettrai pas de dire que ça n'existe pas, mais ça serait bien d'avoir les preuves quand on parole de savant, ou la preuve, le dalil, quand on apporte une mas'ala de ce type. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va chercher. Je vais chercher Inch'Allah Ta'ala. Et te donnerai la réponse Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum Oustaz, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant la question qui a été posée sur le fait de prononcer le nom d'Allah dans les toilettes si la salle de bain et les WC sont séparés. Est-ce pareil? Je sais que j'ai déjà vu. Ce genre de questions. Je sais que j'ai déjà vu ce genre de questions et j'ai oublié, et c'est justement dans ce genre de cas qu'il me semble qu'on peut prononcer le basmala dans la tête, dans l'esprit, mais pas bismillah. Naam. Déjà, le basmala, c'est avant d'entrer dans les toilettes, à la kulli hal. On dit bismillah avant d'entrer dans les toilettes. Wallahu ahlam. Mais je vais voir, il me semble qu'il y a des savants qui disent on peut prononcer, mais dans la tête. Mais ça, faut que je. Dans notre esprit, mais ça, faut que je confirme. J'ai énormément de problèmes au sujet de l'intention. J'aimerais savoir comment la mettre, faire. Est-ce que l'énoncer dans son fort intérieur est une innovation? J'ai cru comprendre que c'est le cas. Et la prononcer encore pire, wallahu alam, j'aimerais avoir un max de détails. Inch'Allah ta'ala, on va te donner, Inch'Allah ta'ala, un petit résumé. Parce que c'est vrai que le détail, ça demande du temps. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va faire un détail et on t'enverra le détail. Ne t'inquiète pas, Inch'Allah Ta'ala. N'hésite pas à nous faire rappeler si on oublie. Concernant l'intention, l'intention, c'est-à-dire que tu dois comme avoir l'envie dans ton esprit.
Non, tu dois travailler ton esprit de manière. Tu dois travailler ton esprit de manière. Avant de faire la chose, tu formes. Je regardais une autre question, hein, c'est pour ça que j'étais un peu chaouache. De manière à. Tu programmes ton esprit de manière à faire cette adoration. Par exemple, là, tout de suite, je dis, je programme mon esprit, je vais aller à la prière. Je vais aller à la mosquée faire la prière. Ça, c'est l'intention. Maintenant, on ne doit pas la prononcer. On ne doit pas la prononcer de vive voix, c'est vrai, c'est une innovation. C'est-à-dire que tu programmes ton esprit à l'avance à faire telle ou telle chose. Au moment où tu as programmé ton esprit d'avoir la volonté de faire telle chose, à ce moment-là, c'est ça la niya, l'intention. Vous savez que c'est très très dur à expliquer ça, hein. On a essayé vraiment de l'expliquer le plus facilement possible. C'est très très dur à expliquer parce que ça se passe dans l'esprit, dans le cœur. Donc pour pouvoir l'expliquer mot à mot, c'est pas. Donc voilà, ça c'est le shaitan qui vient et qui met des sortes d'ambiguïté, de. Il faut faire attention, hein. C'est le shaitan, il aime bien ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Vous savez qu'il y a des gens, Massakine, ils avaient tellement d'ouest-ouest que j'ai connu, hein. Ils avaient tellement d'ouest-ouest que quand il va faire les ablutions. On dirait qu'il a pris une douche tellement qu'il a recommencé, il ne sait pas. On dirait qu'il vient de prendre une douche, il est tout mouillé. Et il y avait un frère comme ça, il me disait, Qaddar Allah ma sha fa'al, j'ai des ouest-ouest dans l'eau d'eau. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'essaierai de t'envoyer un détail sur ça, Cheikh Ibn Mohammed. J'aurais une question sur les ablutions. Faut-il dire l'attestation? Wa'iyak, akhi, wa'iyak. J'aurais une question sur les ablutions. Faut-il dire l'attestation de foi après avoir terminé? Naham, il faut. Je vous apporterai le dalil, je ne l'ai pas là, mais je sais qu'il faut. Et d'ailleurs, nous le faisons. Après l'eau, lever son regard vers le ciel et prononcer l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma inni aj'alni min at-tawwabin. Wallahumma ij'alni min al-mutahhirin ou mutahharin. Naam. J'ai une seconde question concernant les ablutions. J'ai vu une vidéo qui m'a un peu perdu. Alors, qui m'a un peu perdu récemment où le monsieur expliquait qu'on pouvait la faire sans totalement se laver les pieds. Par exemple, fini, il disait que certains trucs n'était pas obligatoire et ça m'a perdu un peu. Si vous pouvez m'éclairer sur ça, barakallahu fikum. La question, elle est un peu, c'est pas ciblé, ce qui veut dire que je peux pas expliquer ça. Mais à partir du moment, j'essaierai de vous faire parvenir une vidéo ou un détail sur la manière de faire les ablutions. Inch'Allah ta'ala, je vais essayer de retenir toutes les questions de tête. J'aurais bien aimé que quelqu'un note toutes les questions qui ont été posées et on a dit on va répondre, on va rechercher, parce que je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Donc on essaiera de vous envoyer une vidéo ou de vous envoyer un détail, parce que ça prend énormément de temps d'expliquer. Mais normalement, si vous faites vos ablutions comme elles sont mentionnées dans Sifat Salat al-Nabi, les caractéristiques de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous tenez sur ça et il n'y a pas autre chose qui vient vous déstabiliser. Il n'y a pas autre chose. Sachant que le fiqh, c'est wasi', c'est très vaste. Mais on essayera de vous donner un détail sur ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si la salle de bain et les WC sont dans la même pièce, est-ce que je fais mes ablutions en disant l'invocation après les ablutions? Est-ce que j'ai le droit de dire l'invocation? Wallahu a'lam, comme on l'a dit précédemment, il me semble, et ça, faut que je. Vérifie que les ulama disent dans ta tête, dans ton esprit, tu ne le dis pas à haute voix. Vous ne le dites pas à haute voix. Wafikum barakallah, je vais essayer de. Wafikum barakallah, je vais vraiment essayer de noter tout de suite ces questions et d'essayer de vous rappeler. Ben, ça sera, c'est bien, on pourra peut-être, Inch'Allah Ta'ala, si on a du temps, vendredi, répondre à vos questions. Répondre à ces questions en détail. Barakallahu fiikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rendez-vous pour le cours prochain sur le dogme, le manhaj, al-aqida dans une vingtaine de minutes. Wa barakallahu fiikum. N'oubliez pas le rappel en début de cours. N'oubliez pas ce rappel, barakallahu fiikum, très important. N'oubliez pas. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.